Bien, chers frères et sœurs, plutôt que de rappeler les termes de la longue bénédiction introduisant la lettre de Pierre, je vous invite à en refaire aujourd'hui la lecture. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3, jusqu'au verset 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Cette relecture d'un texte que nous commençons à connaître me semblait utile, me semblait nécessaire, car les versets suivants commencent par « C'est pourquoi ». C'est pourquoi? C'est à cause de tout ce qui précède. En conséquence, donc, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans le monde, dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Arrêtons-nous donc ce matin à ces derniers versets. Nous avons lieu d'être surpris par l'expression qui apparaît dès le verset 13 et qui parle de ceindre les reins de l'entendement, de l'intelligence. On peut traduire le mot par l'un ou l'autre. De toute évidence, il ne peut s'agir là que d'une illustration, que d'une image. Car notre intelligence n'a pas de rein. Il ne s'agit pas de prendre l'expression au pied de la lettre. Elle était certainement beaucoup plus parlante aux populations de l'époque, vêtues de tuniques généralement, de vêtements longs et amples, qui posaient problème lors d'une marche soutenue ou d'activité professionnelle. Tant et si bien que les gens à l'époque saignez leurs reins, c'est-à-dire prenez le bas de leurs vêtements et le coincez, le tenez par la ceinture. Ce qui raccourcissait bien sûr les vêtements et libérait les mouvements de ces personnes. Il s'agit tout simplement de cette image-là. Aujourd'hui, avec les vêtements moulants, pantalons et autres articles de ce genre, on n'a plus besoin de se ceindre les reins sous cette forme-là. D'ailleurs, vous ne verrez plus aujourd'hui ce que nous avons connu dans le passé. Je ne suis pas tellement vieux, je n'ai pas l'âge de Mathusalem. Mais pourtant, je me souviens des démarches assez gracieuses des dames, porteuses de jupes longues souvent, alors qu'aujourd'hui, vous avez des démarches qui s'apparentent parfois, excusez, ce n'est pas méchant de ma part, à la démarche des girafes. Vous avez de ces longs pas. Dans le texte biblique, il est parlé des petits pas des filles de Jérusalem. Mais bien sûr, avec des vêtements de la sorte, vous ne pouvez pas avoir de longues enjambées. Aujourd'hui, c'est différent. Nous n'allons pas épiloguer là-dessus. Mais ceci juste pour expliquer cette expression. Que signifie-t-elle d'autre ? Sinon simplement que ceux dont les reins étaient sains, c'étaient des personnes prêtes à l'activité, prêtes à la marche, des personnes disposées à se mettre en route. Et de toute évidence, Pierre fait allusion au texte qui relate la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Ceux qui connaissent l'Ancien Testament, et il ne faut pas beaucoup le connaître pour se rappeler de cet épisode, se souviennent que le texte rapporte textuellement, vraiment littéralement, que lorsqu'ils ont mangé l'agneau pascal, l'agneau sacrifié, leurs reins étaient sains, ils avaient leurs chaussures aux pieds, et tenaient le bâton à la main. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à partir, même de façon impromptue. En fait, ils ne pouvaient pas être surpris par l'ordre de marche, ils étaient en ordre de marche. Ceindre les reins de son entendement, c'est en fait avoir l'esprit, l'intelligence prêt à s'engager avec le Seigneur. Le disciple, selon les paroles même de Jésus, son disciple doit avoir ses reins sains et sa lampe allumée, nous dit le texte de Luc 12, 35. Ainsi, les lecteurs de Pierre, ceux à qui la lettre était adressée, ceux qui avaient été, comme le dit le texte un peu plus haut, engendrés de nouveau, régénérés. Ceux-là étaient les nouveaux acteurs d'un nouvel exode. Nous allons garder cette image de l'exode car non seulement elle apparaît ici, dans le début de ce passage, mais la suite vient confirmer que la chose est présente dans l'esprit de Pierre. Un nouvel exode qui n'est pas une alternative offerte au choix de chacun. Pas une éventualité, c'est une certitude. Le texte qui parle donc de ces gens régénérés dit d'eux dans ce verset 13 « Plus que saignez les reins de votre entendement, dit ayant saint les reins de votre entendement. » Présente la chose comme étant une réalité acquise, comme étant une vérité, comme étant un état. Les lecteurs de Pierre étaient des hommes et des femmes, disciples de Jésus-Christ, prêts à aller de l'avant. D'ailleurs, le texte que nous avons relu ce matin montre bien à quel point ils vivaient la grâce de l'évangile qui leur avait été offerte. Ainsi donc, il faut, je crois, bien garder cela présent à l'esprit. ils sont engagés dans une réalité qui résulte de l'œuvre de Dieu. Leur réponse, c'est d'être prêt pour aller plus loin. Dieu leur a parlé, ils se sont préparés. C'est un fait accompli. Ils sont prêts pour le début d'une aventure dont ils ne connaissent pas la suite. Ils en connaissent le début, comme les Israélites allaient partir d'Égypte, ne savaient trop ce qui allait survenir, ainsi le disciple de Jésus-Christ s'engage à la suite de son maître sans trop savoir où cela le conduit. Bien sûr, il a une idée de la destination finale, comme les Juifs avaient l'idée de la destination finale. Je me permettrai d'émettre un petit, une interrogation sur le parallélisme établi dans bien des circonstances entre la destination finale d'Israël et la destination finale de l'Église. On veut nous dire que Canaan, c'est le ciel. Moi, je vous dis franchement, je n'y crois pas. Je vous surprends peut-être. Pourquoi n'y crois-je pas? Eh bien, parce que lorsqu'Israël est entré dans Canaan, il a dû se retrousser les manches et faire usage des armes pour gagner le territoire qui lui était conquis, qui lui était offert. Le ciel, tel que nous l'entrevoyons, si c'est cette bagarre-là, moi je n'en veux pas. Vous comprenez pourquoi j'émets des doutes quant au parallélisme. Oui, je vais vers une nouvelle Jérusalem, mais qui est la Jérusalem céleste. Oui, je vais vers ce lieu où ce qui sera plus beau que la plus belle des terres, qui sera plus grand et plus merveilleux que ces lieux où coule le lait et le miel. Mais je sais que la place m'y est préparée et qu'il n'y aura pas de conquête à faire là. Elle est acquise. En Jésus-Christ, c'est une réalité. Ainsi donc, nous allons faire un distinguo entre l'espérance de ceux qui partaient d'Égypte et nous qui nous lançons dans un exode nouveau où nous sommes appelés, nous aussi, à sortir d'un lieu pour aller vers un autre. Et nous dirons que notre Canaan, ça sera plutôt la vie de l'Église. Notre adjonction au corps de Christ ici-bas. Vie faite de combats, faite de luttes, faite de conquêtes, et hélas souvent de défaites aussi. Nous sommes invités à sortir d'un lieu pour rentrer dans un autre. Et vous avez reconnu là le mot de l'Église, les appeler hors d'eux. Comme disait un frère en Christ, pasteur longtemps de l'Église de Nîmes, l'Église, c'est l'ensemble des sortants-entrants. Ben oui, ce sont ceux qui sont sortis du monde et qui sont entrés dans l'Église. Ce sont donc c'est la société des sortants-entrants. Mais notre exode, s'il se fait dans un monde réel, celui que nous vivons, n'est pas sorti du monde. Nous n'allons pas reprendre cela, car notre sortie est spirituelle et non physique. Et Jésus a été assez clair à ce propos. « Je ne te demande pas de les ôter du monde, » dans la prière dont une partie a été lue tout à l'heure, « mais de les garder du mal. » Et c'est ainsi que Pierre va donner la recette pour cette protection. Vous l'avez lu comme moi, « Saignez les reins de votre entendement, » étant sobre, là aussi nous avons un participe présent, qui lui va marquer une action continue. L'autre était un présent, mais dans une action passée, ayant saint. C'est une chose qui a été accomplie. Maintenant, étant sobre, en quoi cela peut-il être en relation avec le texte de l'Exode. Eh bien, au sens littéral, tout le monde sait ce qu'est la sobriété, et généralement appliquée aux questions de boisson. Mais au sens figuré dans le texte biblique, la sobriété ou le fait d'être sobre, c'est le fait d'être vigilant, d'être sage, d'être prudent. Et nous trouvons dans les écrits bibliques, dans les lettres en particulier, plusieurs allusions à cette sobriété. La sobriété ainsi invoquée sera la résistance aux sollicitations illégitimes et elle sera l'utilisation maîtrisée des sollicitations ou des propositions légitimes. D'un côté, elle va savoir s'abstenir de ce qui est contre ce que Dieu a voulu et de l'autre côté, faire un usage sage de ce qui lui est permis, de ce qui lui est conseillé. Étant sobre. Si vous regardez le peuple qui est sorti du pays d'Égypte, s'il est quelque chose qui lui a fait défaut, c'est bien cette sobriété-là. En effet, lorsque, se heurtant à bien des difficultés, ils en arriveront à connaître des problèmes dans lesquels nous aurions peut-être eu les mêmes réactions, voici comment la question est abordée dans Nombre. Je vais y arriver, je suis dans le Lévitique. Comment la question est abordée dans Nombre, il est vrai, par le ramassis de gens qui étaient au milieu d'Israël, tous ces gens qui avaient profité de la sortie du peuple d'Israël pour sortir avec lui de l'Égypte. Voici comment s'exprime ce ramassis de gens dans Nombre 11, 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire. Vous voyez, le ramassis de gens donne le « là » et le peuple d'Israël va chanter l'hymne. Il va se dépêcher de lui emboîter le pas. Ils se recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. » Comme le souvenir peut être déformé. Ils étaient seulement esclaves. Ça ne leur coûtait rien, d'après ce qu'ils disaient, n'est-ce pas ? Nous nous souvenons des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os, des ails, si vous préférez, que c'était bon tout ça. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Un usage illégitime de ce qui était vécu dans l'esclavage, le regret de cela, et un mauvais usage du renouvellement quotidien de la grâce de Dieu, au travers de cette expression, nos yeux ne voient que de la manne. Et encore, ce n'est rien, il faudrait aller quelques chapitres plus loin, pas beaucoup, au chapitre 21 de ce même livre. Israël dira, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Il s'agit de la manne. Quand je disais qu'ils ont manqué de la sobriété, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Excès du langage, dans un sens, dans le regret de ce qui caractérisait leur servitude, et mépris de l'autre côté des grâces données. Vigilance, sagesse, discernement de ce qui doit être rejeté et de ce qui doit être accepté, de ce qui peut et doit être adopté, s'accompagne d'un des fruits de l'esprit qui n'est autre que celui de la maîtrise de soi. Ainsi, l'apôtre n'hésite-t-il pas à dire « étant sobre ». L'expression de cette sobriété, de cette promptitude à être prêt à servir, se trouve facilitée par la jouissance d'une grâce qui apparaît ici dans le chapitre, dans le verset 13, la grâce qui sera manifestée lorsque Jésus apparaîtra, mais dont les lecteurs ont déjà grandement joui. Souvenons-nous de tout leur cheminement. Nous n'allons pas reprendre le début du passage, mais ils ont été élus, ils ont été régénérés, ils ont été gardés. Il y a le renouvellement de ces grâces dans le quotidien de leur vie. Tant et si bien que le rappel d'une grâce pleinement manifestée devait les aider à aller de l'avant dans leur exode nouveau. Dans un tel contexte, ils sont présentés d'une façon qui est aussi surprenante pour nous. Littéralement, comme des enfants d'obéissance. En votre qualité d'enfant d'obéissance. Ils se trouvent dans une situation où ils sont présentés comme étant obéissants. Comme s'il était naturel, comme s'il était normal qu'ils entrent dans cette relation de confiance avec Dieu et que Dieu demandant quelque chose, il le trouve naturel d'y répondre et il trouve même du plaisir. C'est la caractéristique de ces lecteurs-là. Puisque vous êtes des enfants obéissants, vous allez agir selon cette obéissance qui est la vôtre. Par opposition à ce que vous étiez avant, lorsque vous étiez dans l'ignorance, des enfants de rébellion, maintenant vous êtes devenus des enfants d'obéissance. En conséquence, de la façon la plus naturelle, de la façon la plus juste, la plus simple, la plus logique, eh bien l'apôtre Pierre leur dit « Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois ». Donc ici, encore une fois, c'est le rappel d'un passé clair, sans aucun doute présent à l'esprit, dont ils doivent savoir se détacher. Il n'y aurait pas, comme l'on dit aujourd'hui, photo pour savoir ce qui était le meilleur. Mais l'apôtre est obligé de les exhorter et de leur rappeler qu'il est tout à fait normal, dans cette démarche d'obéissance, de ne plus se conformer à ce qui faisait avant leur délice. Comme la situation ressemble à celle des Juifs de l'époque. Et Pierre invite ses frères à ne pas se modeler. C'est le texte. Ne vous conformez pas aux convoitises. Ne vous modelant pas, littéralement. Ne vous façonnant pas selon le modèle. Ne vous coulant pas dans le moule. Un moule dont vous avez été sorti pour être façonné d'une autre manière. Ainsi, vous avez déjà pensé sans doute à un texte approchant. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas, c'est le même verbe. Ne vous façonnez pas sur le modèle du monde présent, mais soyez transformés. Le verbe est celui dont nous avons fait métamorphose. En grec, c'est métamorphose. Métamorpho. Ainsi donc, le disciple de Jésus-Christ ne doit pas se couler dans le moule dont il a été extirpé, et par contre, il doit être métamorphosé. Soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Nous retrouvons des mots très proches dans les deux textes dus aux plumes de Paul ou de Pierre. Telle doit être et telle est notre vocation. Si nous faisions de nouveau allégeance aux choses passées, nous sombrerions de nouveau dans l'ignorance. Or, nous ne pouvons plus sombrer dans cette ignorance, puisque Dieu a ouvert nos yeux. On raconte une anecdote, je vais vous la dire. J'ose à peine la dire, parce que parfois, elle est un petit peu limite, un petit peu méchante pour certains. Mais prenez-la au premier degré, s'il vous plaît. Vous la connaissez, certains d'entre vous, ceux qui me connaissent depuis longtemps, la connaissent aussi, cette histoire. Un petit garçon joue avec des chatons. Tout petit. Un ecclésiastique passe. Ils sont beaux, tes petits chats, mon garçon. Ah oui, monsieur. Ils sont vraiment très jolis, oui. Ils sont tous catholiques. Ah bon? Et le prêtre de s'en aller. Il repasse une quinzaine de jours après, et le petit garçon est encore en train de jouer, mais avec des chats qui ont grandi, bien sûr. Mais dis donc, ils sont beaux, tes chats, qu'est-ce qu'ils ont grandi, qu'est-ce qu'ils ont évolué? Ah oui, monsieur le curé, mais ils sont protestants. Comment? Tu m'as dit la dernière fois, ils ont été catholiques, maintenant tu me dis ils sont protestants. Oui, monsieur le curé, mais maintenant ils ont ouvert les yeux. Bon, je me permettrai de dire quand même qu'il y a bien des catholiques qui ont ouvert les yeux. Heureusement. Heureusement. Donc, n'accordez pas plus de crédit à mon illustration. Mais le temps d'ignorance est passé. Nous devons avoir une vie spirituelle, Dieu ouvert. Des yeux qui ont été dessillés par la grâce de Dieu, qui maintenant savent reconnaître. Et l'apôtre Paul le dira dans Romains 12, lorsqu'il demande d'être métamorphosé par le renouvellement de l'intelligence, pour que vous discerniez, pour que vous voyiez, pour que vous reconnaissiez, pour que vous sachiez reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Cela n'est possible qu'à ceux dont les yeux sont ouverts, dont le cœur a été visité par la grâce. Cela n'est possible que pour ceux-là qui se sont engagés dans cet exode à la suite de Jésus. Et c'est ainsi que le texte va un petit peu plus loin dans ce même passage, et l'apôtre va utiliser un argument qui, là encore, nous surprend quelque peu. Car s'il est quelque chose, s'il est un attribut de Dieu que l'homme redoute, que l'homme craint par-dessus tout, c'est sa sainteté. Mais puisque c'est là la qualité essentielle de celui qui vous a appelé, vous aussi, soyez saints. Voilà donc l'argument que Pierre reprend déjà de l'Exode. Car au moment de l'Exode, lorsque Dieu choisit ce peuple, et là j'attire votre attention sur un texte qui se trouve, lui, dans le livre du Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, je vais voir, je crois que c'est au chapitre 4, si mon souvenir est exact. Voici comment Dieu parle à Israël. Ce n'est pas une longue lecture, mais enfin, quelques versets. Voici Deutéronome 4, verset 32. « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement, et a-t-on jamais ouï quelque chose de semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles, des combats, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte, sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et dans un autre passage, ce même Éternel qui est venu s'approprier une nation du sein d'une autre nation, dira à cette nation nouvelle, tu es un peuple saint, parce que tu es associé, choisi par le Dieu saint. Et tout ce qui s'approche de Dieu est approché de Dieu dans l'Ancien Testament et considéré comme saint. Ainsi donc, peut-il en être autrement de nous-mêmes? Nous qui craignons la sainteté de Dieu, regardez donc dans Ésaïe 6, la vision du prophète de Dieu, lorsqu'il voit cette sainteté de Dieu qui remplit le temple, lorsqu'il entend les créatures célestes chanter la sainteté de Dieu, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées, toute la terre est remplie de sa gloire, je vais mourir parce que j'ai vu l'Éternel. » Non, Dieu ne se fait pas connaître pour nous faire mourir. Et cette sainteté que nous redoutons tellement, c'est celle qu'il se propose de partager avec nous. Tu es saint parce que tu appartiens à un Dieu saint. Le fait d'avoir été engendré de nouveau, le fait d'être prêt à toute démarche avec le Seigneur, nous fait mettre notre vie en rapport avec la sainteté de Dieu. Soyez saints dans toute votre conduite. Si la première démarche qui découlait de l'évangélisation et de la régénération était de ceindre ses reins pour aller de l'avant, c'était un fait accompli et je dis tout à l'heure, ici, il y a une nuance, et c'est plus qu'une nuance, c'est quelque chose qui est de taille. Nous avons, nous, la traduction que vous avez lue, que nous avons lue, « Vous aussi soyez saints ». Je préfère la traduction de texte grec, car il est dit dans le grec, « Vous aussi devenez saints ». Il y a quand même une nuance. Si, effectivement, ayant saint les reins, ils étaient prêts à se mettre en route, voici que dans l'expression de cette appartenance à Dieu et de la sainteté, c'était un devenir. Ce n'était pas un acquis. Il fallait à ce propos qu'ils marchent de progrès en progrès. Il fallait qu'ils découvrent ce que c'était que d'emboîter le pas à leur Dieu et de se heurter aux difficultés de la vie. Devenez saint dans toute votre conduite, dans tout ce qui fait nos attitudes, à commencer par la pensée, en le prolongeant par les paroles ou par les gestes. Tout ce qui nous met en contact avec le monde extérieur, proche ou éloigné. Tout ce qui, de ce fait, peut être vu, mesuré, jugé, tout cela doit être marqué par notre appartenance au Dieu saint. Dans toute votre conduite, dans tout ce que les gens vont voir, entendre, apprécier de votre part, apprécier en négatif ou en positif, dans tout ce qui va d'une manière ou d'une autre, engagez votre Père céleste. Devenez saint, marqué, ou plutôt que vos actes, que vos gestes, que vos pensées, que tout ce qui est en rapport avec autrui, reçoivent l'empreinte de l'intervention du Dieu saint dans votre existence. Devenez saint. Car vous serez saint, car je suis saint. Ainsi, bien-aimés, on devrait pouvoir dire de nous, en raison de notre conduite, comme Mireille avait dit des jeunes à l'époque, comme ils s'aiment. On devrait pouvoir dire de nous, tel père, tel fils. Si Dieu est notre Père, quels ne devons-nous pas être par la sainteté de notre conduite dans laquelle nous devons progresser. Que la grâce de Dieu nous rende capables de relever le défi d'un exode nouveau. Amen.